Cham philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo.
Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.
Bonjour et bienvenue sur Radio Cham. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Villain, professeur de philosophie au lycée Valéry Giscard d'Estaing de Chamalières. Je suis Héloïse et je suis accompagnée de ma camarade Flora. Nous sommes étudiantes à l'INSP de Chamalières. Parcours documentation.
Bonjour monsieur, alors je vais commencer avec la première question qui est donc comment peut-on rester encore optimiste dans cette époque troublée ?
Vous m'adressez cette question en tant que je suis professeur de philosophie et je crois que là d'emblée en fait il y a quelque chose à préciser. Poser cette question à un professeur de philosophie, ça doit d'abord nous interroger sur le rôle qui est celui de la philosophie. Ben, je veux dire par là qu'il faut s'interroger sur le rôle que peut effectivement tenir la philosophie. Est-ce que véritablement la philosophie peut permettre de répondre à une telle question ? Finalement, adresser une telle question, comment peut-on rester encore optimiste dans cette époque troublée ? Adresser une telle question à un professeur de philosophie, c'est déjà s'imaginer que la philosophie serait une discipline qui détiendrait les réponses à telle question. C'est même imaginer qu'il pourrait y avoir une discipline en général qui serait susceptible d'apporter une réponse à une telle question. À savoir donc la question de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu une discipline capable de cela ? Est-ce qu'un prof de philosophie et même un philosophe serait un maître de sagesse ? Un maître à qui on pourrait adresser des questions, les questions qui nous taraudent et qui pourrait prétendre avoir la réponse à la place de celui qui interroge ? Est-ce que pour autant ça voudrait dire que la philosophie n'aurait rien à dire concernant cette question ? Pas du tout. Il y a bien un savoir philosophique qui peut permettre d'aborder cette question en philosophe.
Comment aborderez-vous cette question en tant que philosophe ?
Eh bien, aborder cette question philosophe, je pense que ce serait d'abord essayer de repérer à qui cette question s'adresse. C'est ce que je viens de faire d'ailleurs. C'est une question ici adressée, telle qu'elle est formulée, elle est adressée à un maître de sagesse, à quelqu'un qui disposerait de ce savoir, qui pourrait le divulguer, dire voilà comment on va faire pour rester optimiste. À quelqu'un donc qui pourrait savoir comment il s'agit d'agir d'une manière générale. Un maître de morale, un moraliste, un moralisateur. Bon, alors, on est d'accord, moralisateur, moraliste, maître de morale, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce glissement-là, de toute façon, il devient possible dès lors que celui qui pose cette question se positionne à l'égard d'un autre, comme s'il détenait la réponse aux questions qui mettent en jeu ce que l'on doit faire. Donc, aborder philosophiquement cette question, déjà commencer par repérer que c'est une question qui met en jeu une manière d'être, une manière de s'impliquer. Poser la question ainsi, qu'est-ce que je dois faire ? En l'occurrence, qu'est-ce que je dois faire pour... Je reprends les termes de la question, pour rester encore optimiste dans cette période de turbulence. Ensuite, aborder philosophiquement cette question, c'est se demander non plus seulement à qui elle s'adresse, mais aussi ce qu'elle interroge. Qu'est-ce que c'est qu'être optimiste ? Plus exactement, c'est quoi rester encore optimiste ? Bon, alors, ce que c'est qu'être optimiste, je pense que tout le monde le sait. Être optimiste, on va dire, c'est voir le verre à moitié plein. Être optimiste, c'est cultiver une représentation du monde qui laisse une place à l'espoir. Et dans l'espace même de cet espoir, se donner les moyens d'agir en vue du meilleur. Bien évidemment, ça pose la question, là, ici, dès qu'on convoque un terme comme le meilleur, du critère d'évaluation. On distingue ainsi donc, l'optimiste du pessimiste. Ce dernier donc, voit tout en noir, et ce faisant, il bouche, ou il boucherait tout horizon, toute possibilité d'action, parce qu'il voue l'action à l'échec. L'optimisme ouvrirait donc un horizon. Le pessimisme s'effondrerait dans une sorte de défaitisme qui anéantirait toute possibilité d'action. Mais ce qui me conduit à revoir cette approche, c'est que dans la question telle qu'elle m'est posée, l'expression n'est pas « comment être optimiste ?». L'expression, c'est « comment rester encore optimiste ?». C'est-à-dire que dans la question telle qu'elle m'est posée, il y a l'idée qu'aujourd'hui, il ne serait plus possible de rester l'optimiste que l'on pouvait être dans le passé. Or, je m'interroge, qu'est-ce qui pouvait permettre d'être soi-disant optimiste par le passé ? Et qui ne permettrait plus de l'être aujourd'hui. Si l'optimisme, c'est bien une forme de croyance, développer tout ça, hein, le pessimisme, c'est aussi une forme de croyance. Si l'optimisme est une forme de croyance, dans la mesure où c'est pas à proprement parler l'état du réel, dans l'expression, dans la question les turbulences de l'époque contemporaine, c'est pas l'état du réel qui peut véritablement être à l'origine même d'une difficulté à être optimiste aujourd'hui. Je redis ça autrement. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus ou pas moins concernant l'existence de Dieu. Aujourd'hui, la croyance en Dieu n'est pas plus ou pas moins une croyance aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. La croyance, d'une manière générale, elle ne peut pas être directement affectée par l'état du réel puisqu'elle porte par définition quelque chose qui se présente au-delà du réel. En clair, donc, on n'a pas moins de raisons d'être optimiste aujourd'hui que l'on en avait autrefois, Parce que l'optimisme porte sur un au-delà, un avenir. L'avenir, par définition, c'est pas là. Donc, on n'en sait rien. L'optimisme, c'est une manière de se reporter à l'avenir qui, par définition, donc, n'existe pas, dont on ne sait rien. C'est une croyance.
Pourquoi aurait-on moins de raisons de croire en l'avenir aujourd'hui qu'hier ? Quelles sont donc ces turbulences contemporaines qui n'existaient pas hier ?
Voilà, il faut imaginer qu'il y a des turbulences actuelles contemporaines qui seraient plus urgentes que ne l'étaient celles d'hier. Mais si on regarde par exemple la question du réchauffement climatique, il faut commencer par poser que l'alerte sur le réchauffement, elle n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, le GIEC, mais hier, la communauté scientifique déjà, a fait état des désastres de l'Anthropocène. Ça fait plus de 50 ans qu'on alerte sur cette question. Pour ce qui concerne autre turbulence du monde contemporain, la montée des inégalités, l'accroissement de la pauvreté, on n'a pas attendu le 21e siècle pour dénoncer les dérives du capitalisme et ce que le capitalisme produit en termes de pauvreté. Voilà, bon, je suis partie prenante là. Hein. Pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, d'accord, très bien, mais la guerre n'a jamais cessé tout au long du XXe siècle. Hein. L'Indochine, le Vietnam, la Corée, le Tchad, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak, la guerre n'a jamais cessé. Et j'oublie la plupart des conflits visibles, invisibilisés, qui se déroulent sur le continent africain. Autre turbulence contemporaine en France, la corruption des politiques, la désaffection des urnes, la banalisation des propos de haine. Cette banalisation des propos de haine, elle n'est pas non plus nouvelle. Et tout cela, bien sûr, ça peut effrayer. Mais qu'est-ce que cela a de véritablement nouveau ? La montée des radicalismes religieux, de même, que ce soit du côté de l'islamisme ou des intégrismes chrétiens, cette montée, elle n'est pas non plus à proprement parler. On pourrait dire que d'une certaine manière, à chaque époque, il a été question de, pour l'humanité en général, de résister à la tentation de la barbarie. Tout se passe donc comme si dans la question telle qu'elle m'est posée, comment rester encore optimiste ? C'est le sujet de cette question, enfin le sujet qui pose cette question, c'est-à-dire nous tous, hein, mais on aspirait en fait à vouloir continuer à se faire croire que tout va bien. C'est comme si cette question, c'était la question de quelqu'un qui dit « Enfin, je voudrais continuer à croire que tout va bien, mais j'y arrive plus. » Mais en réalité, rien n'a jamais été bien. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourrait essayer encore de travailler cette question en se disant qu'il s'agirait de chercher, non pas à se faire croire que tout va bien, mais plutôt accepter, non pas au sens de baisser les bras, mais à rencontrer un peu plus de réel, faire un petit peu plus face au réel tel qu'il est. Le réel, de fait, c'est pas la rigolade, le réel. Enfin, c'est pas pour être pessimiste ou défaitiste ou triste ou je ne sais quoi, mais le réel, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la difficulté de communiquer entre êtres humains. Le réel, c'est les injustices. Le réel, c'est les puissants qui oppriment et les pauvres qui ne savent pas comment s'organiser ou auxquels on interdit de s'organiser et qui préfèrent donc peut-être cultiver un optimisme, une croyance, hein, un optimisme, une croyance béate qui en réalité les coupe de toute action possible. Peut-être qu'en regardant ce réel pour ce qu'il est, pourrait se donner les moyens de faire quelque chose. Alors je disais tout à l'heure que résister à la tentation de la barbarie, c'est un défi constant. L'humanité, à chaque époque, cette résistance, ce défi, il est possible que si on commence par ne pas nier l'existence d'une tentation barbare. Qu'il y a dans l'humanité une tentation à la barbarie. Comment est-ce que je pourrais essayer de définir cette tentation à la barbarie, tentation vers la barbarie. Ce serait une sorte de culture de forme de représentation qui viennent flatter la toute-puissance. Je sais pas, moi, je pense aux doctrines nazies avec les Aryens, je pense à toute une série de doctrines comme ça qui viennent flatter l'illusion d'une possible toute-puissance, mais qui en réalité ne peut que conduire à une forme d'autodestruction de l'humanité elle-même. Par contre, l'époque contemporaine, elle a bien quelque chose d'inédit. Comme à chaque fois, toute époque se caractérise par de l'inédit. Mais ce qui est inédit, c'est qu'aujourd'hui, même les individus qui jusqu'à présent pouvaient espérer continuer à échapper au réel sentent qu'ils vont se retrouver dedans. L'urgence climatique, notamment, ça fait complètement craquer les fantasmes de bisounours, hein. Parmi ces fantasmes, l'idée qu'on pourrait continuer à produire et consommer comme on le fait depuis 50 ans, donc ad vitam aeternam, ces fantasmes qui craquent de toutes parts, ce sont ceux par lesquels on a pris l'habitude de recouvrir le réel et de masquer l'existence effective des conséquences des choix de production que nous faisons collectivement, ou encore que certains responsables politiques cautionnent en soutenant ceux qui détiennent réellement le pouvoir concernant ces questions, parce qu'après tout, on n'est pas tous tout puissants concernant cela. Alors quoi ? Est-ce qu'il s'agit d'être encore optimiste, au sens où il faudrait encore construire un autre fantasme de bisounours un peu plus élaboré, comme par exemple l'idée de construire une fusée pour partir sur Mars, ou se faire croire d'ailleurs que tout le monde pourrait monter dans la fusée d'Elon Musk, et que Elon Musk serait prêt à nous y faire tous monter, ou bien est-ce qu'il s'agit de regarder le réel le plus en face possible et donc s'engager dans un combat?
Quel est le combat qu'il faut mener?
Le combat qui permettrait de résister à la tentation qui nous anime tous, la tentation de la barbarie. Alors il est clair ici que c'est une question difficile que vous me posez. C'est une question qui met en jeu ma position de professeur dans un lycée. Moi, je ne peux pas dire quel est le bon combat. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a bien avancé par rapport à la question de départ. Et que on pose cette fois la question d'une nouvelle manière. Il me semble que cette nouvelle question, elle constitue une avancée donc par rapport à celle qui nous a conduit là. C'est plus la question de quelqu'un qui demande à un maître comment continuer à se faire croire que tout va bien quand tout ne va pas bien. C'est la question de quelqu'un qui se demande où, comment quoi, s'informer concernant le réel. Où s'informer, comment se cultiver, comment s'instruire pour ne pas reculer devant le réel. C'est la question de quelqu'un qui va commencer donc à faire des sélections dans les sources d'information, savoir faire des choix entre des médias détenus par des intérêts privés, CNews, BFM, ou des médias indépendants. Je pense par exemple à Mediapart. Ici, c'est une nouvelle question. Comment je peux m'instruire? Comment je peux aller vers plus de savoir, de connaissances, hein, et non pas dans la culture d'un fantasme qui me ferait croire que tout va bien, quoi. C'est la question donc de quelqu'un qui va se demander quelles sont les causes qu'il faut soutenir, quelles sont celles qui doivent être combattues, parce qu'elles sont au service d'une partie trop restreinte de l'humanité, et parce que ces dernières résulteraient de visions fantasmées qui n'ont jamais collé à la réalité. Comment rester optimiste aujourd'hui? En s'instruisant auprès de qui il faut, comme il faut, en menant les combats qui sont les bons, et en arrêtant de vouloir se faire croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Si vous vous souvenez, à la fin de Candide, hein, après donc avoir tout au long de cette nouvelle roman-là, avoir ridiculisé Pangloss, l'auteur de cette phrase « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles », Voltaire invitait à cultiver son jardin. Je pense que son invitation ne peut plus avoir le même sens aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, cultiver son jardin, ça veut d'abord dire se préoccuper de la cultivabilité des sols et de la juste répartition des richesses produites par cette culture. Ça veut d'abord dire arrêter de croire qu'un jardin, ça a un propriétaire, alors que la terre, en tant qu'elle est menacée, elle est menacée pour tout le monde.
Et pour finir, quelles sont vos références pour répondre à ces questions?
Oui, parce que je l'ai pas dit, mais j'ai pensé à quelques textes qui viennent soutenir mon propos. On peut penser par exemple à ce qu'écrit Freud dans Le malaise dans la civilisation. Voilà, l'approche freudienne à ce niveau-là me semble vraiment intéressante. Et puis j'ai aussi, qu'au moment où je parle de la croyance, là, et du fait qu'elle est en un sens l'opium, enfin, la drogue qui empêche aux plus démunis d'essayer de regarder le réel en face. Je pense à ce texte de Marx qui se trouve dans les principes de la philosophie du droit de Hegel. Donc le texte est de Marx, mais dedans il y a le nom Hegel. Dans le titre, il y a le nom. Et puis, concernant la question de l'optimisme, c'est pas du tout la voie que j'ai empruntée, mais on peut penser aussi au travail que fait Kant. Emmanuel Kant, au XVIIIe siècle, nous dit qu'il y a un devoir d'optimisme, permettre de mettre en perspective un petit peu ce que j'ai dit.
Merci Flora pour avoir mené cette interview, et merci à Monsieur Villain pour votre intervention. J'ai une dernière petite question pour vous. Donc, nous sommes ici dans un lycée hôtelier, et donc la traditionnelle question de Radio Cham, c'est quel est votre plat préféré? Pour être un peu plus léger.
Je ne m'y attendais pas du tout, mais je ne connais pas la réponse à cette question. Je peux juste vous dire que ce week-end, j'ai mangé un bœuf bourguignon qui était très très bon, et c'est très agréable, voilà. Mais de là à dire que c'est mon plat préféré, je ne sais pas.
Merci.
Merci.
Cham Philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham Philo. Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.